J'adore apprendre avec Radio Okapi.
Oui, les enfants, bienvenue dans votre émission Bana Okapi Éducation. Bonjour et bienvenue dans Bana Éducation, une émission d'apprentissage à distance avec Radio Okapi qui vous propose des leçons pour des élèves du cycle terminal du système formel de l'éducation et plus particulièrement pour ceux du niveau 3 du rattrapage scolaire de l'enseignement de base. Douglas Ibanda, c'est bien moi qui vous présente cette émission. À la technique, nous avons Pierre Diassinois, Christian Mapendano et Sarah Soumela sont à la réalisation sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Vous pouvez suivre cette émission du lundi au vendredi des 16h à 17h, heure de Kinshasa. La rediffusion, c'est chaque samedi à 10h et dimanche à 11h. Chers apprenants, bonjour et bienvenue dans Bana Okapi.
Bonjour Bana Okapi Éducation.
Alors, chers amis, dans notre cours d'histoire d'aujourd'hui, nous allons découvrir une page importante de notre pays. Il s'agit de l'histoire du Congo. Après avoir parlé des royaumes et des empires ayant marqué notre histoire ou l'histoire de notre pays, aujourd'hui nous allons explorer l'histoire du Congo depuis l'arrivée de Belges jusqu'à l'accession à l'indépendance. À travers cette leçon, nous allons découvrir les différentes étapes par lesquelles notre pays est passé. Nous allons aussi connaître les tout premiers présidents et les tout premiers premiers ministres de notre pays et surtout couvrir comment notre pays a accédé à son indépendance. Ceci dit, chers apprenants, soyez attentifs, apprêtez vos cahiers et stylos et c'est parti pour notre histoire. L'histoire du Congo moderne commence le 30 avril 1885, date à laquelle le Parlement belge autorise le roi de Belge, Léopold II, par l'adoption d'une résolution, de devenir chef d'un autre État. Le 1er août 1885, Léopold II, roi de Belge, saisit toutes les grandes puissances européennes que l'Association internationale du Congo devenait ainsi l'État indépendant du Congo et hissait en sigle, c'est-à-dire bien avant, le Congo était l'Association internationale du Congo. Après que Léopold II ait obtenu l'adoption, c'est-à-dire bien avant, le Congo portait le nom de l'Association internationale du Congo. Cependant, lorsque Léopold II est autorisé à diriger un deuxième État, il va changer ses noms et le Congo va devenir l'État indépendant du Congo et EIC en sigle. Par décret royal, Léopold II va nommer trois administrateurs qui seront chargés de gérer sa nouvelle propriété qui est l'État indépendant du Congo. Il s'agit de l'administrateur général en charge des affaires étrangères, de l'administrateur général des finances et de l'administrateur général en charge de l'intérieur et de la sécurité. Ces administrateurs vont s'installer à Vivi, la capitale de l'État indépendant du Congo. Retenez bien, l'État indépendant du Congo avait pour capitale Vivi. Vivi, c'est l'actuelle ville de Boma.
J'adore apprendre grâce à Radio Okapi.
Parlons un peu de l'organisation territoriale de l'État indépendant du Congo. Créé officiellement le 1er juillet 1885, l'EIC, donc l'État indépendant du Congo, était reconnu par la conférence de Berlin en 1885, souvenez-vous, la conférence de Berlin s'est tenue entre 1884 et 1885. Léopold II exerçait donc un pouvoir absolu, agissant comme chef d'État et en même temps propriétaire privé. L'administration de l'État indépendant du Congo visait surtout l'exploitation de ressources telles que l'ivoire, les caoutchoucs et le contrôle de populations. Parlons de l'organisation hiérarchique de l'État indépendant du Congo. L'organisation territoriale de l'État indépendant du Congo était différente de celle du Congo belge. C'est là car il s'agissait d'une propriété personnelle du roi Léopold II et non d'une colonie officielle de la Belgique. Son système administratif était plus militarisé et centré sur l'exploitation économique que sur un développement administratif classique. L'EIC avait un système centralisé avec des structures plus réduites. L'État indépendant du Congo était dirigé par un gouverneur général. Retenez ça bien, chers apprenants. Il résidait à Vivi, la capitale de l'État indépendant du Congo. Souvenez-vous, nous avons dit que Vivi, c'est l'ancienne appellation de la ville de Boma. Donc, Vivi, c'est l'actuelle ville de Boma. Le gouverneur général dirigeait l'administration au nom de Léopold II. Il supervisait les forces armées, l'économie et les affaires politiques. L'État indépendant du Congo était divisé en districts administratifs. L'État indépendant du Congo était dirigé en districts administratifs. Chaque district était dirigé par un commissaire de district, un commandant de district, qui était souvent un militaire. Chaque district était donc dirigé par un commissaire de district, soit par un commandant de district qui était le plus souvent un militaire. Ces commissaires avaient à la fois des fonctions civiles, judiciaires et militaires. Chaque district à son tour était subdivisé en postes, appelés aussi stations. Chaque district était subdivisé en postes qu'on appelait aussi des stations. Ces stations ou ces postes étaient situés sur le long de fleuves, sur des axes commerciaux. Chaque poste était dirigé par un chef de poste, généralement un officier de la force publique ou un agent d'une compagnie concessionnaire. Les postes servaient à collecter les taxes, stocker les marchandises, organiser les expéditions et surveiller la population. Pendant la période de l'État indépendant du Congo, nous avions aussi les compagnies concessionnaires. Chers apprenants, chers auditeurs, les compagnies concessionnaires étaient des sociétés privées à qui on octroyait des vastes terres ou des vastes territoires pour exploiter les caoutchoucs et d'autres ressources. Ces sociétés géraient elles-mêmes les territoires concédés, imposant souvent un régime très dur aux populations. L'État indépendant du Congo avait comme principe de gestion la centralisation extrême autour du roi, l'administration militarisée avec la force publique pour le maintien de l'ordre, les systèmes concessionnaires, c'est-à-dire les portions entières du territoire qui étaient confiées à des entreprises privées. Cependant, il y avait aussi peu de structures civiles permanentes avec objectif l'exploitation rapide des richesses. L'objet principal de ces gouvernements était l'exploitation des richesses, notamment les caoutchoucs, l'ivoire, à travers un système de travail forcé extrêmement violent. Cette période fut marquée par des millions de morts, des villages détruits, des esclaves capturés et des souffrances généralisées qui finiront par être dénoncées au niveau international. La période, je disais donc, de l'État indépendant du Congo fut marquée par des millions de morts des Congolais, des milliers de villages détruits, des esclaves capturés et une souffrance généralisée qui a fini par être dénoncée au niveau international. Cependant, en 1908, face à la pression internationale, la Belgique rachète le territoire de Léopold II et en fait une colonie. L'État indépendant du Congo devient ainsi le Congo belge.
J'écoute pour apprendre avec Radio Okapi.
Parlons maintenant du Congo belge. Chers apprenants, le 15 novembre 1908, la Belgique annexe officiellement les territoires qu'il avait rachetés auprès de Léopold II, mettant fin ainsi à l'État indépendant du Congo. Le pays, comme je vous l'ai dit, va devenir le Congo belge et est géré par le gouvernement belge. Quelle était l'organisation politique et administrative du Congo belge? Fidèles auditeurs, chers apprenants, écoutez bien. L'organisation territoriale du Congo belge, la période coloniale allant de 1908 à 1960, désignait la façon dont la colonie était divisée administrativement pour en assurer la gestion, les contrôles et l'exploitation par l'administration belge. Voici une présentation claire et structurée de l'organisation territoriale et administrative du Congo belge. Après la reprise de l'État indépendant du Congo par la Belgique en 1908, le nouveau territoire colonial, rebaptisé Congo belge, devait être administré efficacement, devait être donc géré efficacement. L'administration coloniale mit en place un système hiérarchisé qui permettait de faire remonter les informations et d'appliquer les décisions du gouvernement belge sur l'ensemble du territoire congolais. L'organisation territoriale reposait sur plusieurs niveaux hiérarchiques. Nous avions tout d'abord le gouverneur général. Chers apprenants, le gouverneur général siégeait à Léopoldville, qui était la capitale du Congo belge, actuel Kinshasa. Il représentait le roi et le gouvernement belge dans la colonie. Il supervisait toute l'administration et coordonnait les services civils, militaires, économiques et judiciaires. À partir de 1933, le Congo belge sera divisé en 6 provinces. Les 6 provinces sont la province de Léopoldville, province de l'Équateur, la province orientale, la province du Kivu, la province du Katanga et la province du Kasai. Écoutez bien et surtout retenez ça très bien, chers apprenants. À partir de 1933, les Congo belges étaient divisés en 6 provinces qui sont Léopoldville, donc la province de Léopoldville, la province de l'Équateur, la province orientale, la province du Kivu, la province du Katanga et la province du Kasai. Chaque province était dirigée par un gouverneur de province représentant le gouverneur général dans sa zone. Chaque province était dirigée par un gouverneur qu'on appelait le gouverneur de province, qui représentait le gouverneur général dans sa zone. Les provinces à leur tour étaient subdivisées en districts. Les districts étaient dirigés par un commissaire des districts. les districts servaient des relais administratifs entre la province et les territoires. Dans chaque district, on avait des territoires. Les territoires constituaient l'unité administrative de base pour la gestion locale. Et les territoires étaient dirigés par un administrateur de territoire, souvent assisté d'un adjoint. C'est à ce niveau que l'administration coloniale entrait le plus en contact avec les populations locales. Après les territoires, nous avions aussi les chefferies et les secteurs. Les chefferies étaient dirigées par des chefs coutumiers reconnus ou nommés par l'administration coloniale. Les secteurs regroupaient plusieurs groupements ou villages. L'administration indirecte passait par ces structures traditionnelles pour collecter l'impôt, organiser les travaux forcés et imposer certaines cultures. Parlons de principes de gestion du Congo belge. Les Congo belges avaient comme principe de gestion la centralisation, c'est-à-dire les grandes décisions concernant la colonie venaient du gouvernement belge ou de Bruxelles. Et l'autre principe, c'était l'hiérarchie stricte, voulait tout simplement dire que chaque échelon répondait à un supérieur. On avait aussi l'administration indirecte. L'administration indirecte consistait en l'utilisation de chefs coutumiers pour gérer la population locale. Et l'autre principe de gestion, c'était les contrôles militaires et policiers. Ces principes visaient le maintien de l'ordre assuré par la force publique. Chers apprenants, chers auditeurs, l'organisation de l'administration du Congo belge avait pour but l'exploitation économique, c'est-à-dire tout ce qui regardait mines, agricole, commerce, le contrôle politique et social, la diffusion des missions religieuses et de l'école coloniale et la sécurité et l'ordre public. Les Congo belges avaient pour capitale, souvenez-vous, rappelez-vous, on en a parlé plus loin, Léopoldville, qui est l'actuelle ville de Kinshasa. Donc, chers apprenants, Léopoldville est l'ancienne appellation de la ville de Kinshasa.
J'aime ça comme à l'école quand j'apprends avec Radio Okapi.
Voyons donc quelques anciennes appellations des villes congolaises. On commence par Léopoldville, qui était l'ancienne appellation de Kinshasa. Nous avons aussi Stanleyville. Stanleyville était l'ancienne appellation de la ville de Kisangani. Stanleyville, ancienne appellation de Kisangani. Chers apprenants, vous pouvez aussi noter Elizabethville, qui était l'ancienne appellation de la ville de Lubumbashi. Donc, si je vous posais la question, quelle était l'ancienne appellation de la ville de Lubumbashi, vous allez me dire, ou vous allez répondre, c'est Elizabethville. On a aussi Jadoville, qui est l'ancienne appellation de Likasi. Nous avons Port-Franqui, qui est l'ancienne appellation de Ilebo. Il y a aussi Louloibourg, qui est l'ancienne appellation de la ville de Kananga. Et dans le Kivu, la ville de Bukavu avait comme ancienne appellation Constermansville. Il y a aussi Albertville, qui est l'ancienne appellation de la ville de Kalemie. Baudouinville est l'ancienne appellation de la ville de Moba. Policeville est l'ancienne appellation d'Isiro. Sans oublier que plus loin là-bas, on avait déjà parlé de Boma, qui avait comme appellation, ancienne appellation plutôt, Vivi. Et la ville de Bandundu avait comme ancienne appellation Banningville. Banningville, c'est l'ancienne appellation de la ville de Bandundu. Et la dernière ville, c'est Mbanzangungu, qui a comme ancienne appellation Tisville. Chers apprenants, notez ça bien et surtout, gardez ça à l'esprit. Les Congo-Belges avaient comme langue officielle le français, le néerlandais et plus de 200 langues africaines parlées localement. Les Congo-Belges étaient dirigés par un gouverneur général représentant de la Belgique. L'administration du Congo-Belge était centralisée à Bruxelles, la capitale de la Belgique. Elle avait une armée coloniale qui était chargée du maintien de l'ordre public et de la défense du territoire. Chers apprenants, pendant cette période, le Congo connaît un développement économique et social avec la construction de routes, des chemins de fer, des hôpitaux et des écoles. L'objectif principal était de faciliter l'exploitation de ressources telles que le cuivre, l'uranium, le diamant, le coton, le café, etc., etc. L'économie du Congo belge était fortement orientée vers les intérêts de la Belgique. Chers apprenants, c'est la fin de cette première partie de notre leçon sur l'état indépendant du Congo. Nous allons nous récréer en écoutant cette belle mélodie et on se retrouve juste après pour évoquer les points marquants de la marche vers l'indépendance.
Car le temps va son chemin, quels que soient nos desseins, sans nous attendre. Et pourtant tu verras, nous marcherons près de toi, quels que soient les caprices du destin. Comme les lions par millions, par le cœur ne font plus qu'un. Tous ensemble avec toi, nous sommes un.
Chers apprenants, bienvenue une fois de plus dans la deuxième partie de cette session d'enseignement à distance avec Okapi Bana Education. Comme vous le savez bien, Aujourd'hui, nous parlons de l'état indépendant du Congo. Nous abordons l'histoire du Congo depuis l'arrivée des Belges jusqu'à l'accession à son indépendance. Voyons à présent quelques événements majeurs qui ont marqué cette période. Là, nous parlons de la marche vers l'indépendance. Parmi ces événements, nous avons tout d'abord la Première Guerre mondiale et ensuite la Seconde Guerre mondiale et surtout, enfin, la montée du nationalisme. Chers apprenants, le Congo belge va participer au combat contre les forces allemandes en Afrique orientale pendant la Première Guerre mondiale. Et lors de la Seconde Guerre mondiale, les territoires congolais fournit des ressources stratégiques, notamment l'uranium, à ses alliés. La montée du nationalisme congolais en 1950, marquée par la création des partis politiques comme la BAKO. La BAKO signifie Alliance des Bas-Congo. ABAKO signifie Alliance des Bas-Congo. L'autre parti qui fut créé par la montée du nationalisme, c'est le MNC. Le MNC qui est le Mouvement National Congolais de Patrice Emery Lumumba. Il y a aussi la CONACAT. La CONACAT, c'était le parti de Moïse Tshombe. Parlons maintenant, chers apprenants, de la marche vers l'indépendance. Tout commence en 1955 avec le plan Van Bilsen. Van Bilsen, qui était un officier belge, va lancer le plan de 30 ans pour former des cadres congolais car il n'était pas préparé pour diriger le pays. Ce plan préconisait l'accession à l'indépendance par piliers, c'est-à-dire les provinces allaient accéder à leur indépendance à tour de rôle. Par exemple, on pouvait commencer par la province de Léopoldville, puis la province de l'Équateur, ainsi de suite. Donc, le plan Van Bilsen, c'est un plan qui prônait le système fédéral. Après 1955, en 1957, le Ghana, sous la direction de Kwame Nkrumah, a été le premier pays d'Afrique noire à obtenir son indépendance, marquant ainsi un tournant significatif. En 1957, le Ghana accède à l'indépendance avec à la tête Kwame Nkrumah. Cette accession du Ghana à son indépendance va éveiller beaucoup de leaders politiques africains, parmi lesquels nous avons Patrice Emery Lumumba. En 1958, la Guinée organise un référendum et refuse de rejoindre la communauté française. Cette décision va déboucher à la proclamation de l'indépendance de la Guinée et à une rupture avec la France. Au niveau du territoire congolais, au niveau du Congo belge, le 4 janvier 1959, suite à l'interdiction du meeting de Kasavubu avec l'ABAKO, l'Alliance des Bas-Congo, à Imka, c'était à l'espace Imka, les Kinois vont marcher et piller le magasin de blancs, ce qui a poussé les blancs à tirer sur la population congolaise. La date du 4 janvier est aujourd'hui considérée comme la date des martyrs de l'indépendance. Le 30 juin 1960 va marquer une date très importante avec la proclamation de l'indépendance du Congo belge.
J'adore apprendre grâce à Radio Okapi.
Patrice Emery Lumumba, donc le 30 juin 1960, les Congo belges accèdent à son indépendance et Patrice Emery Lumumba devient le premier ministre et Joseph Kasavubu, président de la République du Congo. Parlons maintenant, chers apprenants, de quelques événements clés ayant marqué l'histoire de notre pays juste après l'accession à l'indépendance. Aussitôt accédée à l'indépendance, la République démocratique du Congo va plonger dans une crise politique. Le premier ministre Patrice Emery Lumumba entre en conflit avec le président Joseph Kasavubu. L'armée congolaise se mutine peu après l'indépendance, provoquant ainsi l'intervention de troupes belges. Le 11 juillet 1960, Moïse Tshombe annonce la sécession katangaise. Le 11 juillet 1960, Moïse Tshombe va annoncer la sécession katangaise. Le Katanga, un territoire riche en ressources, fait sécession avec à sa tête Moïse Tshombe, qui aggrave davantage la crise politique. Le 8 août 1960, Albert Kalonji va faire pareil, c'est-à-dire lui aussi, il va annoncer la sécession du Kasaï. Albert Kalonji, qui était leader du Grand Kasaï, va annoncer la sécession du Kasaï le 8 août 1960. L'Organisation des Nations Unies va se déployer ainsi pour une mission de maintien de la paix, pour stabiliser les pays, mais cette mission va s'avérer sans succès. Cependant, toutes ces situations vont accentuer la crise entre Joseph Kasavubu, qui était le président, et Lumumba. Lumumba, qui était donc le premier ministre. Les 5-6 mois 1960, Joseph Kasavubu révoque Patrice Emery Lumumba, son premier ministre. Cependant, quelques heures après sa révocation, Lumumba, à son tour, va révoquer le président Joseph Kasavubu.
J'écoute pour apprendre avec Radio Okapi.
Chers apprenants, face à ces désordres, Désiré Mobutu, à l'époque, chef d'état-major, neutralise Lumumba et Joseph Kasavubu et crée les 19 mois 1960 un gouvernement de transition qu'il va nommer les collèges des commissaires généraux. Donc, face à la crise et aux troubles qu'il y avait entre Joseph Kasavubu et son premier ministre Lumumba, Désiré Mobutu, qui fut à l'époque chef d'état-major, va neutraliser ces deux personnages, donc le premier ministre et son président, et va créer un gouvernement de transition qu'il va nommer les collèges des commissaires généraux. Le 17 janvier 1960, Lumumba est arrêté et transféré au Katanga. Il sera donc exécuté dans des circonstances très tragiques. Cet événement va devenir un symbole de la lutte anti-impérialiste et va susciter une indignation mondiale au niveau du pays. La mort de Lumumba va provoquer des rébellions dans tout le pays. En 1965, Mobutu renverse Joseph Kasavubu et prend le pouvoir par un coup d'état militaire. Il instaure ainsi un régime autoritaire et rebaptise le pays Zaïre en 1971. Après toutes ces crises, ces troubles, après la mort de Lumumba, Joseph Désiré Mobutu va renverser Joseph Kasavubu, donc le président, et prendre le pouvoir grâce à un coup d'état. Il va instaurer un système autoritaire, c'est-à-dire il va instaurer la dictature et va changer les noms du pays. La République démocratique du Congo s'appellera désormais Zaïre en 1971. Le règne de Mobutu va durer 32 ans et sera marqué par la centralisation du pouvoir et la corruption. En 1997, Joseph Désiré Mobutu est renversé par Laurent Désiré Kabila après une rébellion soutenue par des pays voisins. Le pays va reprendre son nom d'origine et entre dans une nouvelle phase politique. En résumé, chers apprenants, l'histoire du Congo, de l'État indépendant du Congo au Congo belge et jusqu'à l'indépendance, commence avec la création de l'État indépendant du Congo en 1885. Le 30 avril 1885, le Parlement belge va autoriser le roi qui s'appelait Léopold II à devenir chef d'un autre État. Et le 1er août 1885, l'Association internationale du Congo devient officiellement l'État indépendant du Congo. Léopold II va nommer 3 administrateurs pour gérer sa propriété. L'État indépendant du Congo avait un pouvoir absolu, était géré par un pouvoir absolu de Léopold II, reconnu à la conférence de Berlin.
J'aime ça comme à l'école quand j'apprends avec Radio Okapi.
Il avait comme structure hiérarchique un gouverneur général qui était basé à Vivi, des districts qui étaient dirigés par des commissaires ou commandants qui étaient souvent de militaires, des postes administrés par des chefs de poste et des compagnies concessionnaires qui étaient composées des sociétés privées pour exploiter les caoutchoucs et l'ivoire. En 1908, l'État indépendant du Congo sera racheté par le gouvernement belge, va devenir plutôt une colonie de la Belgique et sera appelé cette fois-ci le Congo belge. Le Congo belge, qui avait comme capitale Léopoldville, était gouverné par un gouverneur général qui représentait les rois et les gouvernements belges. À partir de 1933, le territoire congolais ou le Congo belge sera divisé en 6 provinces qui sont la province de Léopoldville, la province de l'Équateur, la province orientale, la province du Kivu, du Katanga et du Kasaï. Cette organisation administrative avait pour objectif l'exploitation minière, agricole et commerciale, les contrôles politiques et sociaux, la diffusion de l'école et de la religion et le maintien de l'ordre. Nous avons aussi parlé de quelques événements majeurs qui ont marqué l'indépendance ou la marche vers l'indépendance. Il s'agit de la Première et Seconde Guerre mondiale, des guerres auxquelles le Congo va participer, et surtout lors de la Deuxième et de la Seconde Guerre mondiale, il va fournir des ressources très importantes, dont l'uranium, qui sera utilisé par ses alliés. En 1950, on va assister à une montée du nationalisme avec la création des partis politiques comme l'ABAKO, l'Alliance des Bakongo, les MNC et les CONACAT. En 1959, il y aura des émeutes à Léopoldville après l'interdiction d'un meeting de l'ABAKO, ce qui va aboutir à des répressions sanglantes. Ainsi, le 30 juin 1960, le Congo belge va accéder à son indépendance avec à sa tête Joseph Kasavubu comme président et Patrice Emery Lumumba comme premier ministre. Voici donc, chers apprenants, l'essentiel de notre leçon d'aujourd'hui. Ceci dit, nous allons passer à notre activité d'application. Je vais donc vous demander de bien écouter ces questions et de répondre correctement. Chers apprenants, quelle est la capitale de l'État indépendant du Congo? Quelle est la capitale de l'État indépendant du Congo? Bravo! La capitale de l'État indépendant du Congo était Vivi. Question numéro 2. Le Congo a accédé à son indépendance A. le 17 mai 1997, B. le 4 janvier 1959 et C. le 30 juin 1960. Super! Le Congo a accédé à l'indépendance le 30 juin 1960. Le tout premier Premier ministre du Congo s'appelle le tout premier Premier ministre du Congo s'appelle Joseph Kasavubu, Joseph Désiré Mobutu, Moïse Tshombe, Patrice Emery Lumumba. Excellent. C'est Patrice Emery Lumumba. Bravo, chers apprenants. C'est la fin de cette session d'enseignement à distance produite avec l'appui de l'UNICEF et destinée aux apprenants du niveau 3 du programme de rattrapage scolaire et à ceux du cycle terminal de l'enseignement primaire.